Vous êtes sur RTL.
Social.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette première émission de la déjà 4e saison de Nous voilà bien. Eh bien, je vous espère en forme et prêt à passer une belle année à notre écoute. Chaque samedi, de 9h15 à 10h sur RTL, eh bien, on se donne pour mission de vous faire une vie plus douce, plus verte et plus appétissante. Alors, on commence la saison en douceur avec une première émission gorgée de soleil et d'envie de prolonger les vacances encore un peu. Marginal avant l'épidémie du Covid, le télétravail a été expérimenté par des millions de Français depuis un an et demi. Et pour beaucoup, eh bien, l'essayer, ce fut l'adopter. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup travaillent loin, voire très loin de leur bureau. Le télétravail, longue distance, c'est tendance, mais comment convaincre son patron? Et quels sont les lieux de rêve où il fait bon poser son ordi et ses valises? Charlotte Robinet, chef de service éco-entreprise au Parisien, nous explique tout dans un instant. Accusé d'être un parasite alors qu'il possède en vérité plus d'un tour dans son feuillage, pourquoi le lierre a-t-il une si mauvaise réputation? Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, nous joue l'avocat du lierre ce matin. Et puis vous avez bronzé tout l'été et vous voulez conserver ce joli teint hâlé le plus longtemps possible? Facile, il vous suffit tout simplement de manger malin. Alors quels sont les aliments qui boostent et qui prolongent votre bronzage? Solveig Darrigaud-Dartinet, diététicienne et nutritionniste, nous dit ce qu'il faut mettre dans son assiette pour avoir bonne mine jusqu'à l'automne.
Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé quand le soleil brille.
Les Parisiennes sur RTL, il fait trop beau pour travailler. On est quand même content de retrouver le soleil. Il est toujours là sur RTL. Bonjour Charlotte Robinet.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté mon invitation ce samedi matin. Vous êtes, je le disais, chef du service éco-entreprise du Parisien. Le télétravail longue distance, bah, c'est tendance, hein. Est-ce que le variant Delta accroît encore le phénomène en cette rentrée?
Oui, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le phénomène reste d'actualité. Alors, on n'a pas de chiffre qui vient étayer cette affirmation là fin août, mais depuis l'apparition de l'article fin juin dans le Parisien qu'on avait fait dans le Parisien Économie, on a eu plusieurs témoignages de chefs d'entreprise qui sont encore en train d'étudier aujourd'hui des demandes de télétravail longue distance. Alors c'est vrai que le variant Delta peut être un facteur dans la mesure où il conduit certaines entreprises à repousser la date de retour au bureau et à autoriser la poursuite du télétravail au-delà de ce qui était prévu. Il y a aussi peut-être la fin de l'été qui est propice à certaines demandes pour ceux qui souhaitent profiter de quelques jours supplémentaires sur leur lieu de vacances.
En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la Covid a changé beaucoup de choses.
Absolument, la tendance a été observée depuis plusieurs mois maintenant. Il y a de plus en plus de salariés qui demandent à partir travailler loin de leur entreprise. Certains observateurs parlent même du début d'une véritable mutation.
Ouais.
Bon. Pour nuancer un peu le propos, il faut tout de même préciser que la tendance concerne évidemment des emplois qui peuvent être faits à distance. Or, on estime qu'il y a 70% des emplois en France qui ne sont pas télétravaillables.
Oui,
donc,
ça.
On ne sera pas non plus sur une vague massive en cette rentrée. Par ailleurs, tous les employeurs ne sont pas prêts à accepter les demandes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui demandent à leurs salariés de revenir au bureau à partir du 1er septembre. Mais le phénomène prend de l'ampleur et c'est un des faits marquants de l'épidémie depuis mars 2020.
Et quel est le profil de ces télétravailleurs longue distance? Sont quoi des célibataires? Est-ce qu'il y a des familles aussi? Parce que ce n'est pas évident, ça a été à la fois une révélation pour certains et une aubaine hein, aussi pour d'autres.
Il y a différents types de profils, oui, c'est ça aussi qui est nouveau. Parce qu'il y a quelques années encore, les travailleurs à distance étaient souvent des jeunes plutôt freelance d'ailleurs dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, il y a des salariés un peu de tous les âges qui se sont rendus compte qu'avec le Covid, ils pouvaient exercer leur lieu de leur travail de n'importe où, pourvu qu'ils aient un ordinateur et une bonne connexion Wi-Fi. Sur ce type de demande, il y a des profils très variés. Il y a beaucoup de jeunes célibataires sans attache. Il y a aussi des familles qui veulent quitter les métropoles ou des nomades qui ont envie d'explorer différents horizons et qui changent régulièrement de point de chute. D'ailleurs, ce qui encourage aussi parfois d'ailleurs certaines demandes de télétravail longue distance ponctuelles.
Ouais. Ouais.
Je veux partir une semaine télétravailler en Tunisie. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit pendant le Covid.
En tout cas, c'est une révolution, je dirais, du travail un peu sur mesure. Est-ce qu'il y a des avantages quand même pour l'employeur, Charlotte Robinet? Pourquoi certains acceptent-ils? Quels sont finalement les avantages de cette situation?
Alors, il peut y avoir plusieurs avantages pour l'employeur. D'abord, c'est d'avoir un salarié épanoui dans son travail. Oui. Il fait qu'un salarié épanoui est beaucoup plus productif.
C'est la base.
Il a choisi son cadre de vie, donc il est heureux et plus motivé dans son travail. L'autre avantage souvent cité, c'est que la politique permet à l'employeur de conserver ses talents. Les employés qui ont des compétences rares peuvent se permettre d'aller voir ailleurs s'ils n'ont pas ce qu'ils demandent. C'est aussi un atout pour la marque employeur de l'entreprise. En situation de recrutement, par exemple, aujourd'hui, on a observé que le critère du nombre de jours télétravaillés est devenu très important pour les candidats à un poste. C'est même souvent la première question qu'on pose à un futur employeur avant celle du salaire.
C'est fou.
Et puis bon, c'est un vrai changement. Il y a un autre avantage non négligeable et un peu plus prosaïque pour l'employeur, c'est que l'éloignement de ses collaborateurs peut lui permettre de réaliser des économies. En réduisant sa surface de bureau ou en les louant, par exemple.
Ah ouais, donc forcément, à un moment donné, ça a quelques avantages aussi, qu'étudient en tout cas certains employeurs. Comment est-ce que je négocie ma demande de télétravail longue distance avec mon patron ? Vous avez des conseils à nous donner ou pas ?
Alors, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'en ai discuté avec des salariés qui l'ont fait, qui ont obtenu gain de cause. Ouais. Si la pratique n'est pas restreinte par l'accord d'entreprise qui peut encadrer aussi cette pratique, et si vous avez envie d'aller vous installer dans l'Ouest ou dans le Sud de la France, vous avez tout intérêt d'abord à bien mettre en avant les raisons pour lesquelles vous souhaitez le faire et surtout les atouts que l'employeur va en retirer. En quoi vous pouvez faire votre travail aussi bien, voire même mieux qu'au bureau, en quoi vous serez plus productif, c'est-à-dire peut-être que vous pourrez plus facilement vous concentrer si vous êtes ailleurs, si vous avez moins de sources de perturbations, les pauses à la machine à café, le bruit de l'open space, le temps de transport perdu quotidiennement dans les transports en commun. Bref, en quoi votre motivation et votre performance vont être décuplées.
Oui.
D'ailleurs, au passage, vous pouvez rappeler le chiffre d'une étude de l'Institut Sapiens qui a été publiée en mars, selon laquelle le travail à distance augmente la productivité des employés de 22%. Mais surtout, il y a une chose essentielle et à laquelle on ne pose pas forcément, c'est de bien souligner votre attachement à l'entreprise. Parce que ça ne coule pas de source pour elle et elle peut interpréter votre demande comme un signal faible, comme le signe que vous allez progressivement vous détacher de l'entreprise. C'est aussi ce que m'ont dit certains avocats en droit du travail. Dans la tête des salariés qui demandent à télétravailler loin, il y a parfois l'idée sous-jacente de quitter un jour la boîte et de trouver un nouveau travail sur le nouveau lieu de vie. Alors, si vous ne le faites pas pour cette raison-là, ça vaut la peine de le rappeler à votre employeur, parce que c'est important pour votre patron de savoir que vous ne partez pas avec l'idée de partir prochainement.
Oui, ça n'est pas l'antichambre d'une séparation.
Oui.
On peut voir ça parfois dans la vraie vie amoureuse. On commence par plus vivre ensemble et puis finalement on va se séparer. En tout cas, rassurer l'employeur évidemment, non seulement sur ses avantages, mais également, on l'a compris, sur notre attachement à la société. Une réponse rapide, et puis on se retrouvera juste après pour parler salaire, parce qu'évidemment ça intéresse tous nos auditeurs. Une part de présentiel, elle est nécessaire ou est-ce que je peux aller faire du télétravail longue distance à 100%?
Alors, tout dépend des accords qui sont mis en place dans les entreprises et du poste que vous occupez.
Oui.
Si vous êtes manager dans l'industrie, il y a de très fortes chances pour qu'on vous impose un présentiel régulier. Si vous occupez un poste plus opérationnel de développeur ou de graphiste, on pourra plus facilement vous dispenser de présentiel, même si c'est pas automatique.
Mais ça existe.
Ça existe. Dans une étude d'ailleurs qui a été faite par une entreprise spécialisée dans la mobilité qui s'appelle Cooptalis et qui souligne que 86% des entreprises avaient reçu une demande de télétravail longue distance au cours de l'année qui précédait avril 2021. 29% des entreprises demandaient encore une part de présentiel. Paraît assez peu.
Oui, c'est ça, ça paraît assez faible. On pourrait s'attendre à plus. En tout cas, ce dont on se rend compte en vous écoutant, Charlotte Robinet, c'est à quel point le visage du travail change aujourd'hui depuis la Covid et l'apparition donc du télétravail qui a d'abord été une solution pendant la crise et qui devient maintenant un art de travailler, si je puis dire. Alors, on se pose beaucoup de questions sur les salaires. Je vous les poserai dans un instant dans la suite de Nous Voilà Bien. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà
Bien.fr. Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver en ce samedi matin. Nous voilà bien, c'est de 9h15 à 10h encore toute cette saison sur l'antenne d'RTL. On vous rend la vie plus douce. Dans un instant, Pierre Nesman va nous parler du lierre. Mais oui, le lierre, vous en avez peut-être chez vous. Est-ce que vous savez le faire pousser? Est-ce que vous savez vous en occuper? Est-ce que votre lierre fait toujours la tronche? On en parlera avec lui, il nous donnera des trucs. Les aliments qui boostent et prolongent le bronzage. On a bonne mine quand même en ce retour d'été. Bonne mine parce que le soleil est de retour. retours quand même. On a connu des retours plus bronzés. Néanmoins, Solveig Darrigaud-Dartinet nous parlera des aliments qui prolongent le bronzage. Mais pour l'heure, ça vous dit un peu de télétravail, vous ?
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous sommes donc avec Charlotte Robinet. Merci d'être avec nous, Charlotte. Je le rappelle, vous êtes chef de service éco-entreprise au Parisien et vous nous livrez énormément d'informations pour ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent sur le télétravail. Alors, bien évidemment, on l'aura compris, Charlotte, c'est une question d'accord entre l'entreprise et l'employé. Il faut se rassurer mutuellement sur les motivations du télétravail. Est-ce que mon salaire va systématiquement être revu à la baisse s'il est indexé au coût de la vie de mon nouveau lieu de résidence ? Parce que je pense à ça parce que c'est le cas aux États-Unis pour les salariés, notamment pour Google.
Absolument. Google a fait un peu polémique cet été en annonçant que ses salariés qui allaient télétravailler de façon indéfinie verront leur salaire indexé sur le lieu de résidence. Donc avec parfois une baisse de plus de 10%. D'ailleurs, c'est pas la seule puisque Facebook et Twitter avaient aussi annoncé. En France, c'est interdit par le droit du travail parce que c'est contraire au principe d'égalité de traitement entre les travailleurs et les télétravailleurs.
D'accord.
Par ailleurs, on peut penser qu'il serait assez malvenu de la part d'un employeur de diminuer la rémunération d'un salarié alors que dans le même temps, il peut faire des économies sur le coût de ses locaux. Mais alors, ça pourrait toutefois s'appliquer si le principe d'une baisse de rémunération était prévu dans le cadre d'un accord d'entreprise.
Mmh.
Il faudrait que ça passe par une négociation avec les syndicats.
Okay.
On peut aussi imaginer qu'un patron soit tenté de réduire non pas le salaire, mais certains avantages en nature, par exemple, pour pas avoir à baisser le salaire direct. Dans les faits, vu que ça doit passer par la négociation, il semble peu probable quand même que les syndicats acceptent de signer un accord qui entérine une baisse de salaire pour certains salariés.
D'accord. Et si j'ai déjà déménagé à l'autre bout du monde pendant le confinement et que j'ai pas prévenu mon patron, admettons, voilà, et qu'en même temps, je le fais un peu en loose day, je risque quelque chose ou pas, même si mon travail est fait ?
Oui, c'est un vrai problème et la question s'est posée notamment pendant le confinement. Alors pas forcément à l'autre bout du monde, mais parfois à l'autre bout de la France. Parce que selon l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, il y a quand même 30% des directeurs de ressources humaines qui ont découvert pendant le confinement que des salariés avaient déménagé sans les prévenir.
Bon. Pas bon.
C'est pas bon. Et c'est surtout problématique si on part à l'autre bout du monde. Si quitte, par exemple, si j'ai un accident sur mon temps de travail alors que je suis à Bali, est-ce que je pourrais le faire reconnaître en accident du travail ? Pas sûr.
Okay.
Il peut aussi y avoir des problèmes fiscaux, des problèmes de protection sociale en cas de pépins de santé. Donc il peut y avoir des vrais soucis pour le salarié qui n'a pas prévenu son employeur de partir loin. Par ailleurs, évidemment, le salarié s'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Et c'est ce qui est notamment arrivé à une salariée qui avait omis d'informer son employeur pendant le premier confinement qu'elle était partie aux Antilles pour continuer à faire son travail. Donc elle mettait son réveil la nuit pour participer aux réunions en visio avec des collègues de métropole. Et le problème en faisant ça, d'abord, c'est qu'elle a menti, mais pas seulement, c'est qu'elle a aussi mis en danger sa santé en rognant sur son sommeil. Et c'est ce qui a avancé son employeur qui l'a remercié.
Vous parliez de Bali, Charlotte Robinet. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, Bali, et on se pose la question, et où vont s'installer ces télétravailleurs longue distance ? À l'étranger ou tout le monde reste encore en France ?
Alors, en majorité, ça reste encore en France, selon le sondage qu'a fait Cooptalis auprès de 500 entreprises en France. 45% des demandes concernaient la France.
Okay.
Parmi les destinations nationales, il y a surtout l'Ouest et le Sud, des régions où il y a du littoral, des grands espaces, parfois du soleil. Par ailleurs, il y avait quand même 41% des demandes qui concernaient l'international. Et parmi ces demandes qui concernent l'international, les destinations prisées sont l'Europe, l'Afrique du Nord-Ouest, les Émirats Arabes Unis, comme Dubaï notamment, et l'Amérique latine, avec pas mal de spots tendance, notamment au Mexique ou à Tulum, dont on a pas mal parlé.
Et alors dites-moi, justement, si je vais aller m'installer à Tulum, mon employeur, s'il l'accepte, il doit participer financièrement à mon installation ? Je pense au matériel informatique, à tout ce dont j'ai besoin pour travailler.
Alors, l'employeur, il est tenu de s'assurer des bonnes conditions d'exercice de ses collaborateurs, donc il doit faire en sorte que le salarié dispose du matériel nécessaire à son activité, l'ordinateur, le téléphone, la connexion Internet. Après, il n'est pas tenu d'aller plus loin. Certains employeurs le font, en proposant notamment de prendre en charge des frais de déplacement occasionnels au bureau. D'autres vont plus loin et prennent en charge le déménagement carrément de leurs salariés, même parfois à l'autre du monde. Mais là, attention, ne rêvez pas, ça n'a strictement rien d'obligatoire et c'est surtout réservé à certains profils très très particuliers.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Charlotte Robinet. Moi, je reste à RTL, vous restez au Parisien.
Absolument.
Je vous remercie d'avoir été là pour la première de Nous voilà bien de la saison. À bientôt, Charlotte
Robinet.
Merci à vous.
Nous voilà bien sur RTL. avec Flavie Flamand.
Il s'est couvert de lierre, le mur de la maison. Il s'est couvert de lierre dans mon cœur au plus profond. Plus jamais ne repos.
Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Bienvenue.
Je suis ravi de vous retrouver.
Moi aussi, avez-vous passé un bel été?
Un bel été, je suis content, c'est la rentrée.
Bon, dans la verdure en tout cas, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale, diffusée sur M6. On va parler du lierre aujourd'hui. Pourquoi ça a mauvaise réputation le lierre? On l'appelle le bourreau des arbres et le destructeur des murs, c'est vrai ça?
Alors non, moi je suis pas du tout d'accord.
Moi,
en fait,
bien.
Il faut savoir que le lierre, c'est pas du tout une plante parasite, c'est une plante grimpante. Alors, c'est une plante qui va développer ses propres racines pour pouvoir se nourrir. Et elle a tout d'abord une croissance horizontale, elle va couvrir le sol. Puis dès que le lierre rencontre un support, ça peut être un mur, un arbre, eh bien, il va commencer à pousser à la verticale grâce à des racines que l'on appelle des racines crampons. Alors évidemment, quand il s'agit d'un mur un peu âgé, un peu ancien, un mur en pierre sèche ou avec un enduit un peu vétuste, c'est vrai qu'il peut participer à sa dégradation. Mais en règle générale, il faut quand même savoir qu'un mur recouvert avec du feuillage de lierre va le protéger des aléas climatiques, du vent, de la pluie, de l'humidité. Alors évidemment, dans un jardin, souvent, quand on a du lierre sur un tronc d'arbre ou sur un arbuste, ce qui va se passer, c'est que le poids des feuilles et des branches du lierre vont alourdir les ramures. Et là, effectivement, risque de les rendre cassantes. Et c'est pour ça que souvent, il a un peu mauvaise presse.
D'accord. Et alors, où je dois le placer, mon lierre, du coup? Où est-ce que je le plante?
Alors, c'était une plante qui est très intéressante parce que grâce à son feuillage persistant, on va pouvoir l'utiliser au jardin pour cacher un pignon disgracieux, se protéger d'un vis-à-vis. On va le planter au pied du mur, au pied de la surface que l'on souhaite dissimuler. Alors, en pleine terre lorsqu'on est au jardin, mais l'avantage du lierre, c'est qu'il pousse aussi dans des pots, sur un balcon et une terrasse, et là aussi, il va pouvoir nous protéger de vis-à-vis de manière très efficace.
Bon, je vais vous faire une confidence. Moi, mes lierres, ce sont pas des vieux compagnons. J'adore ça. Je trouve ça super beau, mais ça tient pas longtemps. Combien d'années ça vit un lierre? Ou est-ce que je suis une assassine de...
Il y a peut-être... Non. En fait, le lierre, ça peut vivre très très longtemps. C'est une plante extrêmement robuste.
Mais j'en ai pas connu.
Mais effectivement,
des vieux, hein.
Ouais. quand on l'utilise à l'intérieur, il faut être très très prudent sur l'arrosage. On a souvent tendance à beaucoup l'arroser. Mmh. Et là, il a les racines qui s'asphyxient. Donc, il faut l'arroser uniquement lorsque le substrat est sec en surface et on reprend les arrosages. Mais il faut le laisser respirer les racines entre deux arrosages. Mais ça peut vivre extrêmement longtemps.
Et ça fleurit?
Oui, ça fleurit. Alors au jardin, alors pas à l'intérieur, mais au jardin, le lierre fleurit et c'est une plante dont les fleurs sont très très appréciées par les abeilles. C'est une plante mellifère. Il va fleurir là prochainement, dans les semaines qui viennent, à partir de septembre jusqu'en novembre. Et alors, une fois que les fleurs se sont développées, elles vont donner naissance à des baies et les baies sont très appréciées des oiseaux. Donc c'est vraiment une plante qui a un grand intérêt au jardin par rapport à la biodiversité. Les oiseaux apprécient le lierre plutôt en fin d'hiver. C'est leur garde-manger de fin d'hiver lorsque la pulpe, la chair est un petit peu confite par le gel. Ils vont commencer à s'y attaquer à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai.
On se retrouve dans un instant, Pierre Nesman. Vous restez avec nous. J'ai plein de questions à vous poser. Ensuite, on parlera cuisine et aliments qui boostent notre bronzage avec Solvay d'Arrigo Tartinet. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Bienvenue sur RTL, on est ensemble jusqu'à 10h dans Nous Voilà Bien. Mais dites donc, vous avez bonne mine. Dans un instant, Solvay d'Arrigo Dartinet va nous parler des aliments qui prolongent notre bronzage. Mais pour l'heure, on parle du lierre avec vous, Pierre Nesman.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Pierre Nesman, merci d'être avec nous pour parler du lierre. Moi, j'adore le lierre. J'adore le lierre à l'intérieur. En tout cas, on aura compris qu'il est possible de le faire pousser à l'intérieur, mais qu'il est très bien aussi en extérieur, qu'il est pratique parce qu'il couvre des murs, parce que parfois il cache certains défauts, qu'il faut se méfier parce que les feuilles et les baies du lierre sont toxiques, donc on s'amuse pas à se faire sa petite tisane, même si on le faisait dans l'Antiquité, qu'il attire les insectes, donc ça, c'est plutôt bien aussi parce qu'il est mellifère, et ça pousse vite le lierre, dites donc.
Oui, effectivement. Alors, quand on l'utilise en couvre-sol au jardin, il va pousser de 60 à 80 cm par an. Et à la verticale, lorsqu'il a rencontré un support, il peut pousser jusqu'à 1,20 m par an. Donc, c'est vrai qu'il est très, très vigoureux. Alors, ce qui est intéressant, Flavie, c'est qu'il a deux types de rameaux et deux types de feuilles. Quand vous avez des rameaux qui sont horizontaux, qui courent sur le sol, eh bien, les feuilles sont plutôt dentées. Mmh. Et puis, vous avez une seconde génération de rameaux. C'est les rameaux qui vont porter les fleurs. Et là, très souvent, on voit les feuilles évoluer. Elles elles vont s'arrondir, elles sont beaucoup moins dentées que d'habitude. Et donc, ça indique qu'il est à maturité pour pouvoir commencer à produire des fleurs et produire des baies.
Mais si ça va si vite, c'est que ça peut être aussi envahissant. Comment on le taille ?
Oui, effectivement, ça peut devenir envahissant, donc il faut faire très attention. On va le tailler au printemps, après l'hiver, pour supprimer tout le lierre qui a poussé en trop. On va le tailler aussi à la fin de l'été, lorsqu'il a fait la pousse de printemps. Alors, quand vous avez, par exemple, une grande parure le long d'un mur, d'une façade, on va le faire à la cisaille, un petit peu comme une haie. Et puis, si vous avez un lierre qui devient très envahissant au jardin, c'est vrai qu'il produit des branches et des troncs qui sont assez épais. On va utiliser, dans ce cas-là, une cisaille, enfin, un taille-haie beaucoup plus important, éventuellement une scie ou un coupe-branche.
Enfin, on y va, quoi. On n'a pas peur, hein.
C'est ce que
j'entends.
Oui.
Alors, je me pose la question, en revanche, en intérieur. Vous savez, parfois, en fait, du lierre tombant, il finit par devenir un petit peu maigrichon. Il fait un peu la tête. Est-ce qu'on peut le couper de la même façon ? Est-ce qu'on peut arrêter un lierre de pousser ?
Alors, on va pas pouvoir arrêter de le faire pousser parce qu'il est programmé pour pousser en permanence. Si effectivement il est un peu rabougri, qu'il a un peu de mal, les feuilles sont moins vert foncé, qu'elles sont un peu plus petites, eh bien c'est très probablement que dans son pot, il manque d'engrais, il manque de quoi manger, de se nourrir. Donc il faut lui apporter un engrais pour plantes d'appartement quand il est à l'intérieur. Quand on est au jardin, en général, on peut apporter un engrais pour arbuste d'ornement, mais il faut le nourrir et c'est ce qui va lui redonner un petit coup de fouet. Et puis évidemment, la taille, le fait de lui donner un petit coup de sécateur de temps en temps sur certains rameaux, eh bien ça va les inciter à reproduire de nouvelles pousses qui seront peut-être parfois beaucoup plus jolies que celles que vous aurez coupées.
Dites-moi, déjà merci parce que vous avez sauvé mes lières qui nous écoutent et qui disent c'est chouette, elle va nous filer de l'engrais depuis le temps qu'ils me le réclament. Mais alors, si effectivement c'est vraiment fait pour pousser le lierre, si on peut le tailler comme on veut, est-ce qu'on peut l'éradiquer aussi ? C'est-à-dire que si je veux sauver un mur...
Oui. Effectivement, alors dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de pratiquement le couper régulièrement. Donc on va le couper au printemps très sévèrement, et dès qu'il y a des rejets qui repoussent, on les coupe, on les supprime, et au bout d'une année, voire deux années, le lierre, il abandonne la partie, il est perdant, il a perdu, et du coup, vous allez pouvoir sauver votre mur. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que sur le mur, ce que l'on peut faire, c'est le discipliner, c'est-à-dire couper autour des fenêtres, couper les gouttières, au niveau des gouttières, des toitures, ce qui peut effectivement présenter des menaces, mais ça peut être intéressant d'avoir des tentures de lierre sur un mur, parce que comme on l'a vu, ça peut être très décoratif, très joli dans un jardin, surtout que il est persistant, donc il y a du feuillage en été comme en hiver, et puis comme je le disais tout à l'heure, eh bien, c'est quand même une réserve de biodiversité, il y a des tas de petits oiseaux, il y a des oiseaux qui vont nicher, il y a des abeilles, il y a des insectes, donc il y a effectivement une grande richesse en matière de biodiversité, donc je suis un partisan du lierre, vous l'aurez compris Flavie.
Exactement, et vous l'aurez très bien dit aujourd'hui sur antenne d'RTL. Merci beaucoup Pierre Nesman d'avoir accepté mon invitation en cette rentrée. Je rappelle donc Rustica Pratique, Mission Végétale diffusée sur M6 et puis votre nouveau livre c'est Mon Jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niesley. À bientôt Pierre sur l'antenne d'RTL et vive le lierre, je vous embrasse.
À bientôt, au revoir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On a mangé le soleil.
Bonjour Flavie.
On a mangé le soleil cet été, on a tous bonne mine. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Dans votre nouveau livre, vous vantez le potager pour nourrir sa famille chez Rustica Édition. Alors justement, est-ce qu'il y a dans mon potager aujourd'hui des légumes, des fruits qui vont me permettre de prolonger mon bronzage ?
Oui, l'alimentation, mais aussi l'hydratation joue un rôle important. Donc on a tout loisir, effectivement, avec son potager, de faire le plein.
Et dites-moi, hydratation et alimentation, c'est lié en fait ?
Oui. Donc, c'est vrai qu'on pense toujours aux aliments, on dit quel aliment, etc. Mais s'hydrater, c'est déjà le premier signe pour que la peau, elle s'étrisse pas. Et puis surtout qu'on ne pèle pas. Donc, il faut y penser en avant-première. Et ensuite, bien sûr, les aliments.
Alors, comment certains aliments peuvent-ils stimuler la production de mélanine, puisque c'est de ça qu'il s'agit ?
Tout à fait. Alors, en fait, de façon plus précise, ce sont les pigments naturels qui sont présents dans les végétaux. Donc, surtout les fruits et les légumes, qui vont stimuler la sécrétion de mélanine, et donc la pigmentation de notre peau. Donc on connaît bien souvent le carotène, hein, qui vient de la carotte, qui donne une belle couleur orangée, mais ils sont nombreux, en fait, ces pigments, puisqu'on a plein de couleurs de végétaux, que ce soit dans les fruits ou les légumes, et ce sont des puissants antioxydants qui protègent également des méfaits du soleil.
Ok, donc en fait, je suis pas obligée de manger des carottes toute la journée, il y a d'autres choses. Vous me rassurez.
Oui. Oui, faut varier justement. Faut diversifier les pigments, donc diversifier les couleurs des végétaux qu'on consomme.
Parce qu'en fait, oui, pardon, ça va vous paraître complètement idiot, mais donc les pigments, c'est la couleur du végétal que j'ai entre les mains.
Tout à fait.
D'accord,
tout à fait.
Ok, donc carotte, donc en fait, orange, pigment, vert,
voilà, okay. voilà, exactement. Le jaune-orange, alors c'est le bêta-carotène, la carotte entre autres, hein, mais c'est les abricots par exemple dans les fruits. Le rouge, c'est le lycopène, donc par exemple la tomate ou les radis rouges. Le bleu-violet, c'est les anthocyanes, donc c'est encore une autre catégorie d'antioxydants et donc de pigments qu'on va retrouver dans les aubergines côté légumes et dans les myrtilles côté fruits par exemple. Et donc à chaque fois, chaque famille va apporter des antioxydants et des pigments qui vont permettre la sécrétion de mélanine.
Ah, d'où l'intérêt d'avoir une assiette hyper colorée.
Complètement. Donc, c'est vrai que vaut mieux diversifier. Alors, au mieux dans un menu, dans un repas entre l'entrée, le plat et le dessert, mais vous pouvez tout à fait faire un mixte. Par exemple, une ratatouille, c'est génial parce que vous avez du vert, vous avez du rouge, vous avez du violet. Donc là, vous avez un assortiment de pigments.
Et ça va avoir non seulement un impact sur ma santé, mais aussi un impact sur ma mine.
Voilà, complètement. C'est ce qui va permettre justement de bien pigmenter la peau, de sécréter cette mélanine. Et puis, bien sûr, chaque catégorie d'antioxydants a des vertus santé différentes. Alors, sur l'élasticité de la peau, puisqu'on parlait de la peau, la pigmentation, ça va permettre aussi aux organes de bien fonctionner à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas que extérieur, mais du coup, chaque pigment a son rôle.
Alors, si chaque pigment a son rôle, on va rentrer dans le détail dans un instant avec vous. On va parler de ces fameux légumes et de ces fruits qui peuvent nous faire du bien et nous permettre de rester non seulement en bonne santé, mais avec une bonne mine. Ça, c'est plutôt sympa parce que l'hiver va arriver à grands pas, donc profitons-en tant que c'est possible.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà les sucrés.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Regardez-moi cette bonne mine que vous avez. Et alors, bonne nouvelle, grâce au conseil de Solveig Darrigaud-Dartinet, vous allez pouvoir prolonger le plaisir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Et on ne mangera pas que des carottes pour garder bonne mine, Solveig. On l'a bien compris. En fait, tous les légumes que l'on peut avoir dans notre assiette, quelle que soit la saison, je dirais, quand ils sont réunis, nous garantir un teint frais, une bonne mine, parce qu'effectivement, la peau aussi reflète notre santé. Alors là, vous avez parlé d'hydratation, Solveig Darrigaud-Dartinet, et de certains légumes qui peuvent effectivement nous permettre de prolonger notre bronzage. Vous disiez que tout était lié parce qu'on s'hydrate avec notre alimentation.
Oui. Alors, on a parlé des légumes, mais les fruits aussi. Hein, bien sûr, les fruits, hein, les abricots, etc. Enfin, tous les fruits de saison. Ben, en fait, un végétal, hein, c'est 80 à 90% d'eau. Hein, le melon, c'est beaucoup d'eau. Donc, on s'hydrate en mangeant des fruits ou en les faisant aussi mixer, hein, pourquoi pas. Donc, il faut profiter de cette eau et bien sûr boire en parallèle. Hein. Donc, il y a l'eau des végétaux. Mais les gens qui sont petits buveurs d'eau, ben, s'ils ne mangent pas beaucoup, non plus de végétaux, ben vont avoir une peau qui va se dessécher, qui va s'abîmer plus rapidement.
Très bien. Je les consomme crus ou cuits, mes légumes ?
Alors, idéalement, on fait un mixte des deux parce que la cuisson, elle va réduire un petit peu le taux d'antioxydants des végétaux, mais crus, ils sont moins bien absorbés. Donc, on essaye de faire le mixte et on prend quelques précautions pour préserver justement ces antioxydants. Alors, par exemple, quand on les mange crus, on essaye aussi d'avoir la peau. On va pas peler la peau parce qu'en fait, le pigment, vous savez, par exemple, une courgette ou un concombre, il est plus pigmenté au niveau de sa peau. Donc, la peau, on la garde, on la jette pas, on la pèle pas, on la garde parce que la chair, il y en a un petit peu moins. C'est un peu moins pigmenté le concombre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pareil pour les courgettes, pour les aubergines. Ensuite, on essaye de pas les faire tremper. On les rince, comme la salade. Hein,
oui, c'est ça ce que j'allais dire. D'où l'intérêt de nettoyer nos légumes, hein, nos fruits et légumes, ce qui est hyper important, et de consommer bio, pardon, d'insister sur
complètement,
sur le sujet.
Surtout si on consomme la peau. Hein,
exactement.
Bien sûr, parce qu'on les brosse, brosse, mais on ne les pèle pas.
D'accord.
On évite de les laisser tremper parce que les antioxydants vont fuir aussi dans l'eau. de trempage. Et puis, on fait une cuisson basse température. On explique les cuissons agressives. La cuisson basse température, c'est ce qui permet de moins abîmer le végétal. Bah, déjà, il réduit moins, donc il perd moins d'eau. Et du coup, il est plus intéressant pour l'organisme.
Voilà, la basse température, c'est plus bas. Hein, et c'est plus long.
Voilà, on diminue, on fait mijoter, en fait, le côté mijoté, comme si on revient sur la ratatouille. C'est un peu cet esprit-là, quoi.
Et vous parliez justement de la peau des légumes, la peau des fruits, c'est la même chose ?
Oui, alors bah, dans le maximum des cas, on essaye de prendre bien sûr les végétaux avec la peau. Comme je le disais, ils sont plus colorés. Après, on peut les mixer aussi en jus, en smoothie ou gazpacho. On ne perd pas les antioxydants, on ne perd pas les pigments. Ce qu'on va perdre, c'est les fibres. C'est le côté MASH, hein, c'est les fibres qui vont plus stimuler le transit intestinal. Mais on n'y perd pas, au contraire, au niveau des antioxydants. Ça n'a aucun effet là-dessus.
Très bien. Est-ce que je peux me faire des masques et des crèmes maison à base de carotène ? J'étais en train de vous écouter et de me dire que je pouvais peut-être moi profiter aussi. Vous savez, même parfois, on met des tranches
de melon.
Mais oui, exactement. De concombre et tout sur le visage, c'est un bon plan, ça ?
Ah oui, c'est un bon plan parce que, en fait, déjà parce que ça hydrate, hein, faut être honnête. La base, c'est que quand vous coupez des tranches de concombre, bah, que vous les mettez sur la peau, ça vous hydrate, hein, comme les sachets de thé, on va dire. Mais aussi, du coup, les pigments. Alors, je vais être honnête avec vous, ça pénètre moins que quand on les mange.
Ouais.
Le fait de passer par tout le système digestif a un effet un peu plus intéressant, mais c'est un petit bonus qu'il ne faut peut-être pas négliger.
Dingo, ça. Je pensais aux compléments alimentaires aussi.
Oui.
On nous en vend plein avant et après, bon âge. C'est quoi ? C'est du pipeau ? C'est dangereux, tout ça ? On nous vend des vitamines C, E, A, de la carotène. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est vrai qu'il faut être attentif aux compléments alimentaires. Comme leur nom l'indique, ce sont des compléments de l'alimentation. Donc, c'est l'alimentation qui doit faire le gros du boulot, si je puis dire. Et le complément, il peut venir, comme la cerise sur le gâteau. Mais avant d'en prendre, moi, ce que je conseille, c'est de se faire conseiller par un thérapeute qui soit bien avisé et puis qui puisse vous conseiller, parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut le devenir à ce moment-là. Que ce soit quelqu'un spécialisé en micronutrition et qui pourra vous dire pour ne pas faire non plus gérer son marché et acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça va dépendre vraiment de vos apports alimentaires et de ce que le corps a besoin en complément en fonction des défauts de votre alimentation et puis de ce qu'il va s'apercevoir sur est-ce que la peau justement est trop sèche, etc. Ouais. Donc c'est un vrai conseil personnalisé. Faire son marché de compléments alimentaires tout seul,
c'est pas une bonne idée. Très bien, le message est passé et on s'y attendait. Allez, va pour la recette spéciale bronzage, gazpacho express, tomate, melon, poivron. Rien que ça, de vous entendre. Déjà, je sens que je suis déjà hydratée. Il suffit de le dire que je m'hydrate.
C'est tout simple.
Et regardez-moi cette mine. Voilà.
Alors, et puis, ça évite d'acheter dans le commerce parce que c'est pas compliqué.
Mais bien sûr.
On va prendre une tranche de melon. On mettra la recette, mais une tranche de 200 grammes de melon, 4 tomates qu'on peut peler, pépiner éventuellement si on a une sensibilité au niveau digestif, et puis du poivron. Alors soit on peut prendre des poivrons marinés en bocal, soit en ce moment des poivrons qu'on va éventuellement peler, un petit peu de vinaigre de xérès, un petit peu d'huile d'olive, de la menthe, de la coriandre si on aime, et surtout sel et piment d'Espelette pour relever tout ça.
D'accord.
Et on mixe au blender, au mixeur, comme on veut. Et on sert ça très frais et à l'apéritif, ça hydrate, ça permet de faire plein de pigments et on est sûr de garder bonne mine.
Non mais ça, c'est super, c'est frais, effectivement, c'est super simple. Le gazpacho, c'est une façon aussi de manger cru ?
Oui. Cru, ça, mais digeste. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à manger tout cru, mais qui ne mâchent pas assez, ou en tout cas, qui ne sont pas assez habitués, du coup, au niveau du transit, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Donc là, à l'apéritif, c'est mieux que, c'est mieux qu'autre chose, hein. C'est mieux qu'un verre d'alcool. Et puis là, on a un cocktail de 3 pigments différents.
Eh bien, merci beaucoup pour cette recette, Solveig Darrigaud-Dartinet. Les tomates, le gazpacho, tomates, de melon et de menthe. Merci beaucoup. D'ailleurs, cette recette, hein, vous l'avez précisé, on va la mettre sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien pour ceux qui nous écoutent. Et puis, envoyez-nous aussi sur les réseaux sociaux des photos de votre bonne mine, ça nous fera plaisir. Merci, Solveig Darrigaud-Dartinet, d'avoir accepté mon invitation. À bientôt, un potager pour nourrir ma famille, c'est chez Rustica Édition. Et puis, vous pouvez également retrouver la cuisine 3 www.s.fr. Simple, saine et savoureuse de Solveig. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Vous n'avez pas tout retenu de cette émission. Eh ben, c'est pas grave. Vous êtes pardonnés. Rendez-vous sur l'appli RTL ou sur Radio Player France pour le replay. Sur nos réseaux sociaux, je vous le disais, pour les recettes. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h. C'est 20h désormais. Sur RTL pour Jour J, votre magazine qui revient sur les événements qui ont marqué l'actualité et la mémoire collective. Tous les soirs de 20h à 21h, on s'éclate avec vous à vous raconter des histoires. Et puis la semaine prochaine, 9h15, 10h pour un nouveau numéro Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end à l'écoute d'RTL bien sûr. Je vous embrasse.